Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue une semaine nouvelle à votre émission Les mains en chaussures. Nous recevons aujourd'hui un praticien de Feldenkrais appelé Gérard Mayen. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Je t'ai présenté comme ça, mais tu peux te présenter toi-même et dire pour nos auditeurs, tu es plus qu'un praticien de Feldenkrais.
Oui, j'étais un tout petit peu intrigué. C'est un fait que je le suis, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le Feldenkrais. C'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'à montrer.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment. Mais bon, c'est
bon. Et par ailleurs, donc, je pensais venir ici, surtout, mais c'est pas grave, je m'adapte, hein, aucun problème, mais surtout en critique de danse, ce qui est peut-être pas évident, y compris pour beaucoup de gens. Des fois, on me dit, mais qu'est-ce que c'est critique de danse? Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Voilà, mais je me pense quand même complètement critique de danse, il n'y a pas de doute.
Oui, parce que dans ton parcours, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On invite Gérard justement parce que c'est un parcours long, intéressant sur les écrits de la danse et aussi de ta réflexion, de ce que tu m'as pu dire de Feldenkrais aussi, que ça fait partie aussi de...
Ah, ça n'est pas antagonique ni même séparé. Non, c'est totalement convergent, on va dire.
Donc après, on fait une petite pause de notre grand ouvrage de Laurence Loupe. Pour les auditeurs qui ont suivi l'émission aujourd'hui, nous allons poser des questions à Gérard sur le bonheur. Comment trouver ce bonheur de la danse, comme on en avait discuté. Et Gérard, il répond toujours à sa façon, à sa manière. Donc on va l'entendre voir.
La question étant, non, si on peut...
Étant de le bonheur, comment trouver le... Est-ce qu'on peut trouver un bonheur à travers la danse et...
Oulala. Cette question, elle ne me plaît pas.
Il n'y a pas de problème, on peut sauter.
Mais hein. Ça ne m'empêche pas du tout d'y répondre. Je peux répondre pourquoi elle ne me plaît pas, avec beaucoup de guillemets, hein, très, très cool, très soft. Hein. Mais elle ne me plaît pas en ce sens qu'il y a... Alors, dans le monde de la danse, je dirais quand même la danse savante, la danse professionnelle, la danse des créateurs, des artistes en danse. Et il y a beaucoup de mythologie, de choses qui circulent. Et il y a notamment, évidemment, tout un flanc un peu spirituel, comme quoi la danse serait une manière de s'approcher de je ne sais quelle dimension cachée ou transcendante ou supérieure. Des choses comme ça. Qui sont toujours très difficiles à attraper, donc je ne sais pas trop ce qu'elles signifient. Mm-hmm. Et peut-être bien que le bonheur, du coup, est une question effectivement formidable, hein, le bonheur absolument, mais tellement immense, difficile à cerner, et tout, que je me méfierais, a priori, de vouloir mettre... créer un pont, une passerelle immédiate entre danse et bonheur. Il y a d'accord. Sûrement beaucoup de malheurs en danse aussi.
Penses à quoi, au pied de la danseuse classique ou...
Au pied de la danseuse classique, aux difficultés des intermittents du spectacle, aux blessures, à la danse comme astreinte disciplinaire, comme
bocal.
Dans l'histoire, on l'a vu aussi souvent comme carcan identitaire, comme construction de régime totalitaire. C'est terrible, je voudrais pas ne parler que de choses absolument désastreuses. Après, bon, bonheur, alors je sais pas si c'est le bonheur, moi j'ai, il se trouve que je suis plutôt jouisseur, je ne boude pas du tout les plaisirs possibles du monde et de la vie avec le monde, et pour ma part je peux jubiler en dansant. je l'ai fait des milliers d'heures, peut-être même bien plus. Voilà, le seul fait, effectivement, cette dépense en pure perte, purement gratuite de soi, mais en très intime, très proche de ses sensations les plus immédiates, hein, de son propre corps en lien avec ce qui nous entoure. Et en même temps une projection, hein, un débordement, des moments de bonheur, oui. Allez, je dirais oui, ok, des moments de bonheur.
Des moments de bonheur. Non, mais c'est intéressant, c'est aussi une provocation parfois quand je pose des questions comme ça, parce que évidemment, ça dépend beaucoup le parcours, et on parlera tout à l'heure des parcours très différents. Avec la pièce des Mouniers.
Oui, alors, je vous coupe, étant entendu que moi-même, je ne suis pas danseur, je n'ai pas la fameuse expérience d'artiste, danseur vivant, se construisant très principalement, à travers une pratique de danse. Donc là, bon, je ne peux pas trop. J'imagine que certaines construisent là, effectivement, des approches de la vie extrêmement épanouies, extrêmement riches, c'est évident. Hein. Est-ce qu'on va appeler ça le bonheur? Peut-être, oui. Hein.
Parce que j'imagine aussi que c'est quand on est posé de l'autre côté du micro et de l'écran pour écrire la danse, le regard s'est nourri d'une toute autre façon. La plupart des personnes que j'ai invitées, c'est personnes qui ont travaillé la danse-thérapie, des courants qui sont plus dans les soins, de traiter les corps, etc. Donc pour eux, cette question du bonheur a du sens, mais j'insiste sur la différence dans la critique, dans la danse qui est si pensée, qui est si écrite en France. Et je pose toujours cette question de si c'est possible, parce que dans beaucoup de cas, je ne le vois pas. Je justement ne vois pas cet bonheur que qu'on pourrait l'attribuer.
Il y a des sous-entendus dans ce propos. On ne peut pas y aller là, parce que ça serait trop... Je ne pense pas que le fait qu'un propos soit élaboré, moi c'est une de mes sources de bonheur, de pouvoir élaborer, de pouvoir penser, de pouvoir écrire, je ne crois pas que ce soit antagonique au bonheur, excusez-moi, mais ça me semble un petit peu binaire comme opposition, parce qu'on pense, parce qu'on élabore, parce qu'on écrit, eh ben on serait en dehors du bonheur, voire on détruirait le bonheur. Ça, j'ai un peu de mal à l'entendre, mais on peut pas commencer à chamailler sur ces questions.
Non, j'ai parlé d'une conception très particulière, spécifique de faire la danse, mais je parlais pas de la construction. Bien,
continuons
notre conversation d'aujourd'hui. Je pense que les auditeurs, les auditrices s'intéressent à savoir comment tu as formulé une pensée hétéroclite, peut-être, et très riche de cette écriture de la danse du point de vue de la critique. Qu'est-ce que tu peux nous formuler comme... si c'est possible, comme un ensemble de ça, ou...
Oui, alors c'est toute une histoire, parce que finalement c'est toute une vie professionnelle et puis une vie, alors je vous rassure, d'émotions et de beaucoup de plaisir, de découverte. Bon, mais c'est toute une vie. Je me souviens en tout cas la première fois que j'ai vu un spectacle de danse contemporaine en étant très peu, en n'ayant pas idée de ce que j'allais voir, enfin n'ayant aucune idée préconçue, heureusement d'ailleurs, n'ayant pas non plus de prévention, hein, de réticence a priori. Et je me souviens d'une réaction donc très simple, très, très naïve, mais très juste, je pense, qui était que je voyais la quantité de mouvements que je n'avais jamais imaginé possible auparavant. J'allais très peu au spectacle, hein. Je ne suis pas du tout une famille prédestinée, etc. Hein. Donc j'avais peut-être bien plus de 25 ans cette fois-là. Bon. Voilà. Et donc cette idée m'a littéralement emballé. cette idée plus qu'une idée, avant tout cette sensation, m'a littéralement emballé, puisque, ma foi, les gestes, c'est quand même une des choses les plus immédiates et proches que nous puissions imaginer. C'est notre corps qui est là engagé, on fait des gestes en permanence, là, pendant que je vous parle, j'en fais. Mm-hmm. Et donc, qu'il puisse y avoir des gestes inédits, inouïs, jamais vus, c'était formidablement enthousiasmant. Et je dois dire que pendant peut-être au moins 2 ou 3 ans, j'ai gardé, et j'espère n'avoir jamais perdu, du reste même un peu quelque chose qui en reste, de cet émerveillement-là. Hein, de tout est possible, tous les gestes sont possibles, tout est possible à travers le geste, voilà. Après, il s'est trouvé, tout bêtement, j'étais dans un quotidien de presse, quotidien régional, dans une petite ville où, entre les faits divers, les feux de forêt, les luttes viticoles, etc., je devais aussi rendre compte de spectacles. Mmh. Et bon, je pense pas que j'étais plus intelligent que la moyenne, hein, mais j'ai quand même eu l'intuition qu'il me fallait faire effort pour décrire à peu près ce que c'était et essayer de capter quel effet ça produisait, qu'est-ce que ça venait provoquer et un petit peu le pourquoi du comment. Comment mm-hmm. ça pouvait fonctionner, à quoi ça faisait penser, etc. Par hasard, il m'est arrivé de relire des textes dont là je vous parle il y a 40 ans, hein, de ce moment-là où j'improvisais complètement, hein, où j'avais aucun outil, et je crois que je ne m'étais pas trop trompé sur l'enjeu. Après, j'ai honte des fois des choses que j'ai pu écrire, je pouvais me tromper complètement sur ce que je captais tout, mais sur la définition de la chose. Et après, c'est devenu une passion, il y a un effet cumulatif, j'ai pu venir travailler à Montpellier, toujours d'ailleurs en presse au Midi Libre, hein, pour mm-hmm. rien cacher, mais du coup, quand même voir beaucoup de choses, rencontrer beaucoup d'artistes, assister à toutes les conférences de presse, etc. etc., etc. Bon, tout un fait cumulatif, jusqu'au point où j'ai repris très tardivement, je vais avoir déjà 45 ans, je pense, j'ai eu la chance formidable, si j'étais au gouvernement, ça serait accordé à tout le monde, de pouvoir reprendre des études tardives.
Oui, c'est vrai.
À 45 ans, et là, je rejoins le département d'études de danse de l'Université Paris 8 Saint-Denis, héritière de la fameuse Université de Vincennes. Donc, ça a été déjà tout un combat, hein. C'est pas étonnant que ça vienne de Vincennes, pour imposer l'idée d'études de danse dans l'Université française. Études sur le cinéma, bien entendu, sur la peinture, bien entendu, sur la littérature, il va sans dire, sur le théâtre, tout ce que vous voulez, mais la danse, mais vous y pensez pas, voyons, etc. Finalement, il a pu arracher l'existence de ce département, qui est d'ailleurs toujours co-dirigé par une Montpelliéraine, je le note en passant, Isabelle Gineau. Et voilà, donc j'ai un peu tout fait à rebours, puisque c'est à ce moment-là, j'ai mm-hmm. déjà 45 ans et 20 ans de pratique, de critique, que j'accède à des outils théoriques, beaucoup plus systématiques, de niveau universitaire, je m'ai rédigé des ouvrages, etc., mm-hmm. etc. Et c'est au même moment, d'ailleurs, je fais la formation en Feldenkrais. Okay. Voilà, donc j'ai un peu tout fait à l'envers. J'ai fait ma formation de base, alors que je sévissais déjà depuis longtemps dans la pratique.
Et il y a eu plusieurs villes alors, ou c'était surtout dans les suds
Plusieurs villes Non, pour la danse, mon histoire de danse, elle recoupe complètement Montpellier, mon histoire de Montpellierin, ça c'est clair. Et puis après, évidemment, quand je suis à Paris pour les études, il faut vivre aussi. Je continue mon activité de critique. Et là, critique, vous savez, je pense qu'on n'a jamais été plus de 10 dans le pays à en vivre. Difficilement, au demeurant. Mais il vaut mieux être critique de football que de danse, hein, je pense. Donc là, sans me vanter, je deviens de, disons, d'intérêt national, voire y compris un peu... pas mal international, c'est effectivement je peux aller à Berlin, à New York et là très couramment en permanence à Nantes, à Lille, à Marseille, à Bordeaux, je saute d'un TGV dans l'autre et parfois dans un avion.
En profitant de ce récit de Gérard, je lui ai forcé à me donner une référence musicale de sa jeunesse, donc on va entendre ce que faisait bouger Gérard Maillan il y a très longtemps. et dans ces tonalités très mouvementées, frénétiques, qu'est-ce que tu as comme souvenir, Gérard?
Oh, alors là, il faudrait faire 10 émissions sur cette séquence-là uniquement. Non, j'ai eu la chance. Bon, c'est le privilège de journaliste, il faut avouer. Bon, et journaliste, ça, normalement, ça a la qualité d'être curieux. Bon, et pour moi, c'est une des premières qualités peut-être qu'on peut avoir, la curiosité au sens positif du mot. Et donc j'ai pu très vite, dès 92-13, je parle du siècle dernier là, du millénaire dernier, détecter qu'il se passait quelque chose de très étrange, puisque la première techno, ben, il y avait des flyers très énigmatiques, on ne comprenait pas. Parce que c'était, il fallait appeler les infolines pour. Il y avait pas, on n'avait pas de téléphone mobile ni d'internet à l'époque. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'était d'autres procédés, pour se donner rendez-vous et découvrir donc ce mouvement techno, les raves, hein, qui était à l'époque balbutiant, c'était le tout début. Donc j'ai la chance de vivre ce début ici, hein, je m'entends, un début. Qui a forcément la force de la découverte d'une authenticité qui va s'étiolant quand le mouvement devient plus massif et surtout est pris sous le contrôle de l'industrie musicale et tout ça, et qui se banalise et qui devient un phénomène de mode. Bon, j'ai eu la chance de vivre les premières années. Et bien, ma foi, c'est avant tout un grand mouvement de danse. Moi, je l'ai abordé comme ça. La musique ne me passionne pas ma vie. Bon, passons, je ne sais pas pour raconter mon nombril, mais la musique n'est pas spécialement mon langage. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu Athéno comme un mouvement de danse. Et bon, ça a été fascinant. C'était des années. Montpellier était totalement conquise et habitée par ça. Et ça teintait toute la ville, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments vestimentaires. C'était extrêmement joyeux. Hein. Complètement barré, complètement délirant souvent. Et vous sortiez de la gare, vous remontiez la rue Maglone, vous sentiez qu'il se passait quelque chose de phénoménal dans cette ville. Il y avait plusieurs bars qui étaient complètement là-dedans, donc c'était toute la semaine. Et les week-ends, il y avait au moins 20-30 000 jeunes dans les diverses raves, dans les garrigues et ailleurs. Et voilà, alors vous me demandez ce que c'est le bonheur, je ne sais pas, enfin c'est l'une des plus belles périodes de ma vie. J'avais déjà 38 ans que ça me tombe dessus et je revis une adolescence.
Oui.
Alors on s'approche peut-être de l'idée de bonheur. Pour moi, l'adolescence, oui, le bonheur, c'est la rébellion, le don à fond, rêve.
Et surtout, il y a une connexion, quand on danse de cette façon, c'est une connexion avec soi-même, c'est une recherche précise spirituelle. Moi, je le
absolument.
Perçois souvent...
Oui.
Souvent
alors moi, je
n'ai
jamais dépassé ce stade à ne danser juste pour le plaisir, hein, pour moi-même. J'ai jamais fait de danse avant, en tout cas. Mais comme vous le suggérez là, je suis entièrement d'accord, bien que c'était que ça, une danse de dépense de soi et de jubilation, j'ai toujours eu la sensation que c'était très proche du plus fondamental de moi-même, quoi, de mon être, au sens le plus zen danse. Enfin, bon, voilà, du bonheur, finalement. Hein. Oui. Vous avez réussi à m'en faire parler. Et là, on écoutait Jeff Mills, plus précisément. Je me souviens, j'allais sur les pistes de danse, je prenais des notes en ensemble, parce qu'il fallait, j'écrivais
des
dessus. Oui, j'avais mon carnet de notes et je notais. Voilà, notamment Jeff Mills, je me souviens, Jeff Mills, j'ai vu plusieurs fois, j'ai interviewé.
Ce qu'on a entendu, c'est de 1996, hein, enregistré à Tokyo, Room Tokyo.
Mais il était là, au Rockstore, ailleurs,
On fait un saut, Gérard, pour que tu me parles de quelque chose que j'ai envie d'entendre sur ton analyse écrite sur la pièce de Mathilde Monnier, Déroute, que tu m'avais parlé, qu'on l'a lié un peu à la question que je pose souvent sur les gestes. Si un geste préféré, on avait parlé, tu m'avais dit non, je n'ai pas de geste, et aujourd'hui.
Oui, alors, geste préféré, j'étais un petit peu embarrassé parce que je me disais c'est peut-être une question qui va plutôt s'adresser à des danseurs, voire profs de danse ou quoi. Donc, je ne voyais pas trop comment répondre à ça. Et un peu avec le sale esprit de contradiction qui me caractérise, j'ai dit je vous ai proposé la marche. Qui, bien entendu, dans le sens commun, n'est pas généralement perçu comme un geste de danse. Voilà, et c'est bien ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va considérer tel geste et geste de danse et pas tel autre. Alors, voilà, tout l'enjeu, parce que, oui, il y a bien la danse, mais il y a du corps, il y a du geste partout, par ailleurs. Et donc, l'intérêt va peut-être surtout de voir comment la danse va peut-être enrichir, déployer, venir contredire, développer la question de notre corps dans le monde, nos codes, nos modes de comportement, etc., plutôt que d'en faire une catégorie totalement à part, de gestes exceptionnels, merveilleux, magnifique, travailler d'un niveau technique inouï, etc., etc. Non, venir questionner, alors je vois rien, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va faire qu'un geste, quels sont les prescrits sociaux et culturels qui vont faire qu'on va définir, ah oui, ça c'est de la danse, ça n'en est ça, pas. Bon, là, pas. C'est 1000 questions passionnantes. Peut-être vous dites, c'est chiant, que ça empêche le bonheur, mais moi ça me fait jouir tout ça, de réfléchir à ça, voilà.
Exactement.
Et du coup, oui, vous parliez de déroute parce que, il se trouve, c'est une pièce, je pense, au tout début des années 2000, hein, de Mathilde Monnier, qui dirigeait donc à l'époque le Centre chorégraphique national de Montpellier.
Depuis 1994.
Elle, fin 94, je pense, ouais. Non, début 94. C'est une pièce. Et il se trouve, du coup, j'entre à la fac à ce moment-là, et c'est, alors c'est drôle, je fais on appelait ça la maîtrise à l'époque, je ne sais plus comment on appelait ça maintenant, master 1.
Master.
Hein, voilà, qui du coup a été publié, il y a peu de master 1 qui sont publiés, Deleuze a publié son master 1.
C'est vrai.
Et Jérôme est ici présent, je rigole, mais bon, voilà. Donc, qui était entièrement une analyse d'une seule pièce, un bouquin entier, modeste, hein, c'est pas une somme, mais quand même un vrai bouquin, qui n'analyse qu'une seule pièce, comme vous le dites, du coup, on écrit. Et cette pièce, c'était un immense tapis, je veux dire, c'est une métaphore, un tapis humain, dans un grand paysage, donc ça demandait une des scènes extraordinaires dont on dégageait en général le fond de scène, le mur de fond de scène pour dégager sur l'arrière-scène, dégager un immense paysage, et dans cet immense paysage se produisait, oh, je pense, combien était-il peut-être, je ne me souviens plus, alors j'ai écrit tant et tant, je l'ai vu peut-être 25 fois cette pièce du coup, pour travailler dessus. Pas loin d'une vingtaine, j'imagine, si je me souviens bien, à dérouler comme ça des marches incessantes, tous en marche. Mm-hmm. D'ailleurs, selon des parcours chacun très très spécifiques, je les avais dessinés, il y en avait qui étaient extrêmement rectilignes, d'autres enchevêtrés, d'autres en spirale, d'autres enfin, voilà, multiples trajectoires. Et tout cela s'émaillant de bascules, de déteintes, de métamorphoses, de glissements vers des figures beaucoup moins quotidiennes, c'est sûr, de vous, puisque la marche, difficile d'imaginer un geste plus quotidien que celui-ci. Mmh. Voilà, tout ça, je disais, donc glissant, se métamorphosant, culbutant, versant vers des figures qu'on va pouvoir du coup caractériser comme des actes performatif, scénique, et bon, disons de la danse. Mais c'était cette tension-là, ce questionnement-là qui était fascinant à observer. Du coup, une pièce en même temps, un fourmillement grouillant d'une multitude de motifs. Finalement, il se passe 10 000 choses. Je suis souvent surpris quand les gens disent on s'ennuie. Il suffit de regarder. Il se passe des choses.
Beaucoup.
Et il se passe 1 000 choses, notamment cette pièce.
Mon image préférée, c'est là, il y a une brosse à l'horizontale. oui, ah oui. À hauteur d'homme, et donc il s'ébrose les cheveux.
Ah, vous l'avez regardé, juste... oui, le passage sur la brosse.
Il y a des passages, il y a une grosse boue aussi noire, oui, où un homme à l'intérieur de la boue, il est immense, donc il, oui, il rebondit.
Ah, des gros pneus de...
Des pneus, voilà, c'est ça.
Des grosses chambres à air, voilà, c'est ça, de camion, là, hein, de poids lourd.
Peut-être dire aux auditeurs.
Pour enserrer certains des performeurs enserrés dans ces chambres à air et effectivement rebondissent.
Pour vous repérer, la pièce de Mathilde Monnier est basée, où c'est délicat à chaque fois à dire ce qu'on on prend du texte, mais du roman Lens de Josh Buchner.
Oui, on peut pas.
Et qui puisse dans cette image de la circulation physique et psychique d'un homme dans la montagne.
Donc voilà, et à travers la danse, c'est cette image. Très bien de le dire, une dimension psychique, physique évidemment, hein, mais psychique aussi, y compris dans son cas de dérèglement mental, hein, mais du coup en tout cas un investissement mental très fort, très 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 intense à travers le pas de danse. Et de ce fait, c'est en parlant, quand on a un petit peu envisagé cette émission, vous m'aviez un petit peu testé sur cette histoire du geste, je me suis rendu compte que finalement cette histoire de marche me renvoyait à un chorégraphe qui est sûrement de ceux qui m'a le plus marqué, que je mettrai, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de Montpellierins pour qui c'est le cas, qui est donc Raymond Hogg, qui a beaucoup été vu à Montpellier, Jean-Paul Montanari.
Je vais te couper, Gérard, oui, parce que c'est le temps des radios qui est compté, mais oui, on va continuer dans une autre émission dans la semaine prochaine avec Gérard. Parce que c'est inépuisable, c'est délicieux de parler de la danse, mais ça va trop vite. Donc on va fermer cet épisode comme ça, en parlant de cette grande nouvelle de Buchner qui a plein de choses intéressantes sur la maladie mentale, mais aussi sur la marche. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission, et je vous souhaite des beaux mouvements pour cette semaine.
Alors tu veux faire danseur?
And push, and turn, and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!